This is Radio Free Brothers.
Minutos en Colombia.
France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Irak, dans l'univers des hackers et au Chili. Ce sera le journal de l'international de Michael Thébault. La revue de presse des correspondants d'Inter passe cette semaine par Washington et Beyrouth avec Frédéric Carbone et Omar Waman. Cinéma, Eva Bétan tout à l'heure sur le film Moonlight. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur les manifestations monstres en Roumanie. Mais tout de suite, la France et l'antiterrorisme.
Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Reprenons de la tuerie de Toulouse à l'assassinat de Saint-Étienne du Rouvray, en passant par Charlie Hebdo, l'hypercachère, le Stade de France, le Bataclan, les policiers de Magnanville, le 14 juillet à Nice. Notre pays a été la cible d'attaques meurtrières quasiment ininterrompues. Alors comment la France, dont l'expérience en matière d'antiterrorisme est ancienne et reconnue, a-t-elle pu se laisser déborder par cette nouvelle forme, cette nouvelle vague de violence? Bonsoir Vincent Nouzille.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant, vous publiez Erreur fatale au pluriel chez Fayard. Première question pour planter le décor. La France n'a pas su ou n'a pas voulu voir venir cette nouvelle vague de terrorisme.
Il y a eu une politique de l'autruche qui a été menée en fait essentiellement par nos présidents de la République, puisque
c'est
le soutien
c'est
du
le
livre.
Cœur.
Voilà,
du livre.
C'est comment nos présidents ont failli face au terrorisme. C'est dans le fond une accumulation d'erreurs. Une accumulation, d'une part en termes de pilotage de la lutte anti-terrorisme en France, qui date depuis les années 80, qui n'a jamais été vraiment pilotée, et du renseignement en France, parce que personne ne peut dire aujourd'hui qui pilote le renseignement. Il y a des problèmes évidemment de guerre entre les services, des problèmes de rivalité, de personnes, des problèmes donc de communication entre les services. Et cette coordination, ce pilotage, n'a jamais été mis en place, que ce soit sous Mitterrand, sous Chirac. Alors sous Sarkozy, il y a une tentative de réforme, et puis finalement on s'est rendu compte que cette réforme de Sarkozy de 2008 a raté et a laissé de côté le renseignement de terrain qui aurait pu voir venir un Mohamed Merah. Et finalement, quand Mohamed Merah apparaît sur la scène, si je puis dire,
on se dit qu'est-ce qui se passe.
Et évidemment, les autorités à l'époque, c'est Nicolas Sarkozy.
Pleine campagne présidentielle.
Voilà, c'était il y a pile 5 ans. Et le Bernard Squarcini, qui est le patron de la direction centrale du renseignement intérieur, c'est vraiment l'outil forgé pour théoriquement surveiller justement ce terrorisme domestique, eh bien, il foire complètement, il rate Mohamed Merah, et il y a un écart parce que la maison centrale est trop centrée sur peut-être les menaces qui viennent de l'étranger, et ce Mohamed Merah qui va être présenté comme un loup solitaire, et cette théorie du solitaire que je raconte dans le détail ne tient pas 2 secondes. C'est-à-dire, c'est une manière de masquer des dysfonctionnements graves qui ont notamment ponctué cette affaire Merah. Puis après, on pense que cette affaire Merah va tirer les leçons de cette affaire Merah. Et finalement, on laisse l'outil en l'état, on ne réforme rien, et que lorsque François Hollande prend les commandes, il se rend bien compte que sur le renseignement de terrain, il faudrait peut-être recorriger un peu le tir. C'est fait en 2014, mais c'est presque un peu trop tard. Et entre 2008 et 2014, en fait, ce qu'on appelle le djihad domestique, le 2.0, c'est pas ces gens qui veulent partir faire le djihad en Syrie ou qui n'y arrivent pas, qui vont commettre les attentats en France, eh bien, on va les voir venir, que ce sont les Kouachi, les Koulibaly et autres.
Voilà, alors ça, on va y venir, mais une question de méthode encore. Pourquoi remonter systématiquement au président de la République? C'est lui le cœur du dispositif? C'est
oui,
lui qui impulse n'impulse pas, d'ailleurs?
Il a une responsabilité d'action ou d'inaction par rapport, justement, à ce pilotage du renseignement et de la lutte antiterroriste
en France.
C'est
pas l'appareil d'État?
Non, parce que l'appareil d'État, chaque ministère fait dans sa partie, si je peux dire. Le garde des Sceaux, il s'occupe de la politique pénitentiaire. Et puis le ministre de l'Intérieur s'occupe un peu de la sécurité intérieure, c'est son job. Et puis la DGSE, les services extérieurs, s'occupent un peu de ce qui se passe à l'étranger. Mais il y a très peu de coordination entre les deux. Et lorsque, par exemple, l'un des frères Kouachi s'en va en voyage au Yémen, dans des zones dont on sait qu'elles sont sous contrôle d'Al-Qaïda, eh bien, lorsqu'il revient, le patron de la DGSE finira par reconnaître que si on l'avait suivi à son retour, on n'aurait pas eu les attentats de Charlie Hebdo, tout simplement. Et puis Koulibaly, c'est un autre cas tout à fait typique. Il n'est pas suivi.
L'hypercachère, notamment.
Il est considéré uniquement comme un délinquant, alors qu'il est déjà au contact de nombreux djihadistes, notamment de toutes les générations de 95, de 2001 et autres. Et puis surtout, lorsqu'il sort de prison, il n'y a aucun suivi post-pénitentiaire de ce délinquant devenu djihadiste. Donc on a bien la défaille entre la politique pénitentiaire, la politique post-pénitentiaire, et puis le suivi de tous ces gens qui ont été embrigadés, ont été en contact avec un certain nombre de djihadistes, et voilà, et c'est pour ça qu'ils passent à l'action.
Alors reprenons les choses selon la chronologie. Vous dites donc qu'il ne se passe aucun enseignement, au fond, n'est tiré de l'épisode de Toulouse de Mohamed Merah, mais pas plus vraiment après Charlie Hebdo et l'hypercacher.
Oui, ce qui est assez dramatique, c'est qu'apparaît janvier, par exemple, janvier 2015, donc Charlie Hebdo et l'hypercacher, on aurait pu croire que les
branle-bas de combat.
Et en réalité, on déclenche l'opération Sentinelle, qui est en fait une forme de ligne Maginot, qui va d'ailleurs contourner bizarrement par la Belgique, une fois de plus, si je puis dire, historiquement. Et puis surtout, le ministre de l'Intérieur, qui est à l'époque Bernard Cazeneuve, il crée des nouvelles structures parallèles qui sont chargées de coordonner les autres. Conclusion, on empile des structures au lieu de simplifier. On ne coordonne rien du tout et on va même donc créer, dans le fond, on va alimenter cette guerre des services qui fait des ravages depuis 1995 et bien avant déjà, puisque je raconte un épisode sous Chirac, après les attentats de 95, il promet qu'il va couper des têtes et réformer le système et en fait, il coupe des têtes mais il ne réforme rien.
Aujourd'hui, il en est quoi exactement d'après vous, Vincent Nouzille ?
La situation est quand même relativement grave, d'une part parce qu'évidemment la situation de l'État islamique est un petit peu de plus en plus cadenassée dans ses fiefs de Mossoul, mais une partie, et de Raqqa bien sûr, mais une partie de ses combattants sont déjà sur le retour, une partie d'entre eux reviennent vers l'Afrique du Nord, notamment en Libye, où évidemment le fait d'avoir un nouveau fief est considéré comme très dangereux, et puis surtout le retour de ces djihadistes, évidemment en France peut-être est considéré. Et surtout, il faut se rappeler ce qu'a dit le patron du renseignement intérieur, Patrick Calvard, devant la commission d'enquête sur le Parlement. Il a dit, il ne faut pas considérer seulement les jeunes français, mais tous les jeunes francophones, c'est-à-dire des milliers de jeunes tunisiens, marocains, algériens qui vont revenir de ces terres de combat et qui peuvent être aussi des sources de danger pour
mais
nous.
Ma question portait sur l'appareil d'État dont vous montrez les failles et les dysfonctionnements.
On a empilé les structures.
Aujourd'hui, après toutes ces vagues d'attentats, est-ce que l'appareil d'État est plus efficace ?
Il est certainement un peu moins inefficace qu'avant 2015. Mais ce n'est pas parce qu'on proclame l'état d'urgence, qu'on montre les muscles, même militairement, d'une certaine façon, qu'on a cette posture un peu martiale qui a scié, évidemment, à François Hollande et à Manuel Valls depuis les attentats de 2015.
Que pouvait-il faire d'autre en même
temps ? Oui, voilà, tout le monde l'aurait fait en gros la même chose, simplement sur la réforme. Il y a eu un Conseil national du renseignement qui s'est tenu pas plus tard qu'il y a un an. Ils ont décidé qu'ils ne changeraient rien. Le système a montré qu'il a failli. DGSI, DGSE, par exemple, et on a décidé, un, qu'on gardait les patrons, et deux, qu'on ne changeait pas l'architecture, et qu'on ne créait pas un système commun, par exemple, pour surveiller l'ensemble des fichiers S, par exemple, ou des gens qui reviennent des terres de combat. Donc, il y a des carences totales en matière de surveillance. Mais je ne parle pas de la surveillance aux frontières, puisque dès septembre 2015, on a argué à l'ONU du fait qu'il y avait un risque exceptionnel d'attaque contre la France. Et on n'a pris aucune mesure pour sécuriser un peu davantage les frontières. On ne le fera que finalement après les attentats du 13 novembre. Donc, on prend des mesures sécuritaires qui paraissent fortes, mais qui en le fond masquent une inaction totale sur la réforme du renseignement et de la lutte.
Donc, c'est un problème, on va dire, technico-administratif, plus politique. Que conceptuel, politique.
Aussi, parce que dans le fond, nos présidents ont fait des erreurs. On sait que Nicolas Sarkozy, en lançant sa guerre en Libye en 2011, a provoqué un chaos régional qui a profité, dans le fond, au djihadisme. Et on a été obligé d'intervenir au Mali et puis un peu en Libye aussi pour essayer de contenir ce fléau. Et puis, on sait aussi que François Hollande, lorsqu'il a décidé de commencer à intervenir au Levant, donc en Syrie, en Irak, il a décidé qu'il ne frappait qu'en Irak. Pendant un an, le foyer, si je puis dire, de Daesh en Syrie n'a pas été dans les radars du renseignement, ni même des militaires français. Lorsque François Hollande décide, en septembre 2015, donc deux mois avant les attentats, de commencer à frapper en Syrie, on a perdu presque une année d'observation et de renseignement sur ce territoire.
Je vous posais la question conceptuelle parce qu'on a le sentiment, en lisant votre livre, que la France a raté, au fond, l'émergence de l'État islamique, n'a pas su analyser ce pôle d'attraction, ni ce qui se passait autour, et l'a fait très tard.
Pas seulement l'État islamique, parce que ça avait commencé avec Al-Qaïda bien avant, puisque les frères Kouachi se revendiquent d'Al-Qaïda, alors que Koulibaly se revendique de l'État islamique. Donc il y a eu une défaillance qui remonte en fait au milieu des années 2000, lorsqu'il y a eu les attentats de Madrid et de Londres, 2004 et 2005. Par exemple, l'Espagne et la Grande-Bretagne ont pris des mesures de prévention de ce djihad intérieur. La France, on a fait des jolis rapports, que je cite, dans mon livre, notamment un très beau rapport, un livre blanc sur le terrorisme en 2006, et on décide qu'on ne change rien, et qu'on décide qu'on ne veut pas voir la réalité de ces banlieues où le djihad, le salafisme est en train de se propager doucement, où le problème dans les prisons qui deviennent un incubateur, c'est pas moi qui le dis, des rapports officiels expliquent dès 2005-2006 que la prison, si on n'y prend pas garde, deviendra le principal incubateur du djihadisme en France, et c'est ce qu'il est advenu.
Est-ce que les recrutements nombreux quand même dans l'appareil sécuritaire au sens large en France permettent de régler une partie du problème que vous décrivez tout au long de cet épais livre?
Oui, tout à fait. Alors évidemment, les moyens supplémentaires, les services les recommandent. Mais par exemple, il y a une distorsion énorme entre les moyens qui sont alloués à la police et au renseignement, par exemple, et d'autre part à la justice. Ce qui a fonctionné pendant quelques années en France, c'était un système où les juges avaient un petit peu la main et qu'ils étaient les maîtres des dossiers. Et ils avaient une capacité même de prévention du terrorisme. Or, ils ont été noyés sous les dossiers, et puis l'appareil de renseignement est devenu très gros, si bien qu'ils n'ont plus l'initiative sur un certain nombre de dossiers. Donc, il y a un déséquilibre qui s'est fait. Le modèle français qui nous a un peu protégés quelques années ne fonctionne plus.
Qui était même cité en exemple,
oui,
le modèle français d'équilibre justement entre liberté,
entre la sécurité, la justice,
les services,
voilà,
etc.
Entre la prévention et une forme de répression des réseaux qui alimentait. Alors, ça a été le cas pendant quelques années, effectivement. On était assez, finalement, adaptés à des menaces ponctuelles venant de réseaux très structurés. Et dès que la menace est devenue plus diffuse, en quelque sorte, où on a connu le djihad 2.0, où les gens se sont recrutés sur Internet, notre appareil de renseignement, très centralisé, n'était plus adapté à sa menace.
Une dernière question, comment réagissez-vous quand vous entendez l'exécutif dire que de très nombreux attentats ont été évités depuis le dernier en date ?
Bien sûr que depuis des années, un certain nombre d'attentats ont été déjoués et heureusement, bien sûr, des professionnels, les magistrats, les policiers qui sont sur le terrain font un travail souvent remarquable. Mais les magistrats sont de plus en plus démunis, les policiers sont de plus en plus débordés et on ne compte pas les milliers de gens qui vont revenir de ces terres de combat et qui vont nous poser des problèmes de sécurité énormes. Et face à cela, je pense que les politiques qui sont menées, soit sur la déradicalisation, que ce soit sur la prison, que ce soit sur les banlieues, que ce soit sur le salafisme, ces problèmes ne sont pas vraiment traités aujourd'hui.
Vincent Nouzy, merci. Journaliste indépendant, je rappelle le titre de votre livre chez Fayard, Erreur fatale au pluriel, consacré donc aux impasses de l'antiterrorisme français. À suivre dans quelques minutes la revue de presse internationale Washington et Beyrouth. Talk about to you. Oui. Womack Winners sur Inter, 18h31, la revue de presse.
Revue de presse internationale, Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Waman.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Washington, Frédéric Carbone, France Inter.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous.
La revue de presse des correspondants d'Inter. Avant de filer à Beyrouth, rejoindre Omar Waman, direction les États-Unis. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas.
À la une de la presse américaine, Frédéric, la place de l'omniprésent et omnipotent Steve Bannon dans l'administration Trump.
Oui, avec effet en particulier la photo de la semaine, on peut dire dans le New York Times, un montage des visages de Donald Trump et de son conseiller, avec comme titre « Président Bannon, point d'interrogation », dont on se demande s'il n'est pas destiné aussi à titiller la susceptibilité que l'on sait forte de Donald Trump. Et dans toute la presse américaine, on souligne le poids inédit pour un conseiller spécial. La revue Foreign Policy cite un responsable anonyme, bien sûr, du Conseil de sécurité nationale qui parle d'une cabale menée par Steve Bannon, d'un cabinet parallèle au sein duquel aucune opinion dissidente ne peut s'exprimer. Et le Washington Post rappelle que dans une des rares interviews qu'il a accordées, Steve Bannon se compare à Cromwell à la cour des Tudors, ce qu'un professeur d'histoire à Oxford traduit ainsi. Ça veut dire que Bannon a son propre agenda et qu'il va essayer d'utiliser le pouvoir de Donald Trump pour le faire avancer. Ça marche tant que vous avez les faveurs du roi, conclut cet historien. Cromwell, on le sait, a fini exécuté. L'influence de Steve Bannon dans ses premières semaines contraste en tout cas avec l'effacement de l'autre conseiller spécial, Jared Kushner. Dans le New York Times, Frank Bruni se demande où est le gendre du président qui était censé modérer Donald Trump. L'ange, écrit l'éditorialiste, semble plus pâle et plus frêle. Et Bruni conclut, je vois en lui l'emblème d'une capitale moralement compromise, pleine de gens qui laissent Trump s'en prendre aux valeurs américaines tant qu'ils y trouvent leur intérêt personnel.
Famille et politique encore, Frédéric, avec cette question, où est l'épouse de Donald Trump, Melania ? Elle s'est faite extrêmement discrète depuis la prise de fonction.
Alors ça, c'est la question que pose le Washington Post à la une de son cahier style, article titré « La première dame partie sans dire un mot ». On sait qu'elle vit à New York, dans la Trump Tower, avec le jeune baron, et qu'elle pourrait s'installer à Washington à la prochaine rentrée scolaire. Mais si Donald Trump va vite, dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, le journal remarque que dans l'aile est, celle des appartements privés, cela va inhabituellement lentement. Personne en particulier n'a été nommé pour s'occuper des événements de la Maison-Blanche, réception, dîner officiel, tous ceux qui impliquent la participation du couple présidentiel. Normalement, c'est un poste pourvu avant l'investiture. Il n'y a eu pour le moment aucune occasion réelle de remarquer l'absence de Melania Trump. Sauf peut-être hier, le président américain est allé rendre hommage à un militaire tué au Yémen. Et dans ce déplacement compassionnel, il était accompagné par sa fille Ivanka.
Et puis les journaux américains, Frédéric, s'intéressent ou se délectent, je ne sais pas, de ce qui se passe ici en France pendant la campagne présidentielle.
Absolument. Et l'hebdomadaire New York Mag a trouvé la bonne formule. La France défie les États-Unis pour la semaine la plus chaotique en politique. Le candidat de droite, écrit le journal, est empêtré dans un scandale de corruption, alors que le candidat désigné par le Parti socialiste symbolise le rejet de la politique d'un président socialiste. Et voilà le lecteur américain transporté dans les méandres de la gauche. Hamon, Macron, Mélenchon, pas facile de s'y retrouver. Le Los Angeles Times facilite quand même les choses en baptisant Benoît Hamon le Bernie Sanders français. Et on attend maintenant, Nicolas, le parallèle entre les emails d'Hillary Clinton et la boîte mail introuvable de Pénélope Fillon.
Bienvenue chez nous. Merci Frédéric Carbone et direction Beyrouth. Bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Nicolas.
À la une de la presse, Omar, chez vous, le combat des femmes libanaises pour une plus grande participation à la vie politique.
Oui, des femmes très en colère et surtout très déterminées, selon le quotidien Nahar. Des femmes qui sont descendues très nombreuses hier dans la rue. Elles représentaient près de 150 ONG féministes, précise le quotidien arabophone. Elles ont manifesté pendant plusieurs heures, brandi des affiches qui appellent les hommes à leur faire un peu de place dans la société et plus précisément dans la vie politique. On apprend en lisant L'Orient le Jour que la femme au Liban a obtenu le droit de vote en 1952, que c'était le premier pays arabe dans la région à le lui accorder, mais que depuis, elle n'a jamais pu accéder au centre de décision. Pire encore, détaille le quotidien, les femmes au Liban constituent près de la moitié de la société, mais ne sont représentées qu'à hauteur de 3% au sein du Parlement libanais. C'est la raison pour laquelle elle demande un quota féminin de 30% dans la répartition des circonscriptions et des sièges dans l'optique des futures élections législatives qui doivent se tenir tenir en mai prochain et de menacer de boycotter ce scrutin si d'aventure cette exigence n'était pas satisfaite.
Et puis, Omar, Donald Trump et ses outrances préoccupent également la presse libanaise.
Oui, le nouveau président américain fait régulièrement la une des journaux libanais depuis son investiture le 20 janvier dernier. El-Nahar décrit non sans inquiétude une situation internationale sans précédent. Dans un éditorial, le quotidien qualifie Donald Trump d'amateur qui est en train de dynamiter l'ordre mondial. Jamais dans l'histoire des États-Unis, poursuit El-Nahar, un président américain n'a multiplié autant de déclarations à l'emporte-pièce en si peu de temps, en 13 jours exactement. Et sa cible préférée du moment, l'Iran. Al-Mostakbal, tout aussi inquiet, prédit des jours sombres après l'avertissement de la nouvelle administration américaine contre Téhéran, dont elle dénonce le comportement déstabilisateur au Moyen-Orient après le récent tir de missile confirmé par le gouvernement iranien. Le Daily Star, qui partage l'inquiétude générale, revient très longuement sur cette crise avec l'Iran et sur un homme qui pourrait pousser Donald Trump au pire. Il s'agit de Steve Bannon, son conseiller stratégique qui rêve, selon le quotidien anglophone, de créer un mouvement populiste mondial fondé sur les valeurs judéo-chrétiennes contre l'islam radical. C'est lui qui est derrière les décrets signés par Trump et notamment celui sur l'immigration. Dans l'Orient le jour, la journaliste Fifi Aboudib nous rappelle une évidence que l'on a perdu de vue. Donald Trump n'est en fait que le produit de ce monde. Le cauchemar, écrit-elle, est devenu réalité. Le grand Satan, si cher à la rue arabe, a enfin un visage, il est d'une navrante banalité. Fifi Aboudib pose une question. Ceux qui se plaignent de la présence des migrants sont-ils vraiment prêts à assumer des actions extrêmes de la part de leur gouvernement pour les tenir à distance? Plus les futures démarches seront brutales, poursuit-elle, plus les camps seront clairs et mieux nous connaîtrons le mal qui nous ronge. Et de conclure, peut-être pourrons-nous enfin le soigner.
Omar Waman depuis Beyrouth pour France Inter. Merci.
24 minutes.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde, pour commencer, direction l'Irak, Michael, l'Irak où des dizaines de milliers de réfugiés continuent de fuir la guerre civile et notamment bien sûr l'interminable bataille pour la reprise de Mossoul.
Et bataille contre le groupe État islamique qui résiste encore et toujours malgré l'avancée des troupes irakiennes, malgré les bombardements de la coalition. Et ils sont donc effectivement des milliers, des familles entières à avoir vécu, survécu plus de 2 ans sous le joug des islamistes, dont la plupart ont été les victimes directes, des réfugiés qu'il faut évidemment loger, alimenter, soigner. Soigner d'abord physiquement, mais aussi psychologiquement. Approche, vous vous en doutez, très délicate, tant ces blessures invisibles sont graves, souvent, voire insurmontables pour certains. Notre envoyée spéciale, Vanessa Descoureaux, s'est rendue dans le nord de l'Irak auprès des réfugiés qui ont fui l'enfer de Daesh et qui tentent aujourd'hui de se reconstruire. Reportage.
Haïfa n'est pas très bavarde, elle qui n'a eu personne avec qui échanger pendant la toute première année de sa captivité. Ensuite, elle a bien croisé d'autres femmes dans les geôles où elle restait, quelques mots, à voix basse, jamais de vraies discussions, au risque de subir un nouveau cycle de violence. À 22 ans, Haïfa retrouve la liberté depuis quelques jours, mais elle économise encore ses mots, comme s'ils étaient autant de souvenirs de l'enfer qu'elle a traversé. Pour le reste, une vie de violence sexuelle, une vie d'interdit, 2 ans et demi aux mains de Daesh.
Je ne sais plus combien de fois j'ai été vendue, peut-être 8, 9, 10 fois. Mes propriétaires étaient tous des Libyens. Les journées, je me levais, je pleurais, je me recouchais, je pleurais, j'étais enfermée à clé dans une pièce. On n'avait pas le droit de bouger, pas le droit de sortir, sous aucun prétexte. J'ai à peine vu le soleil pendant plus de 2 ans, je n'étais plus de ce monde. J'étais enfermée dans cette prison, je ne sortais jamais, je suis trop fatiguée pour imaginer l'avenir, tout est fatigué en moi, mon corps, mon esprit.
C'est le cousin d'Haïfa qui lui a permis de retrouver la liberté. Il a payé une rançon à des passeurs pour la faire sortir de Raqqa en Syrie. De là, elle parvient à rejoindre la frontière turque. Elle vit désormais sous une tente, dans un camp de réfugiés dans le nord de l'Irak, n'attendant plus rien de la vie, dit-elle, sauf la seule chose qui pourrait lui ramener son âme, que sa mère et ses 4 frères soient aussi libérés du joug de Daesh. Dès son retour, Haïfa a demandé une assistance psychologique sur le camp où elle vit. Du personnel médical est là pour écouter les victimes et c'est une jeune femme à peine plus âgée qu'Haïfa qui la suit. C'est Ayran. Elle aussi, elle a connu les abominations de Daesh.
Depuis que mon village a été libéré, j'y suis allée une fois. J'avais quelque chose à y faire, mais je n'ai pas pu rentrer dans ma maison. Impossible, car ma grand-mère avait l'habitude d'y être et ils l'ont tuée. Je ne peux pas imaginer cet endroit sans elle, et aussi parce que ma cousine, dont on a trouvé le corps découpé en plusieurs morceaux, vivait dans une maison dans la même rue. Donc c'est trop difficile pour moi. Mais je ne dis rien de mon histoire à mes patientes, car leur souffrance est bien pire que la mienne, leurs histoires sont bien plus dures que la mienne. Moi, je suis là pour atténuer leur douleur, pas l'accroître, alors je dis rien.
Toute la journée, Ayran voit les femmes défiler dans son bureau. Pour certaines, il faut des séances entières avant d'accepter de dire un début de vérité, puis peu à peu, en dire plus, mais jamais tout, croit savoir Ayran la psychologue. L'une de ses patientes, Rihan, est sous traitement médicamenteux depuis plusieurs mois, incapable sans cela de trouver le sommeil.
Mes 5 enfants étaient avec moi au début. Puis ils ont pris un de mes garçons et une fille, ainsi que mon mari. Un survivant m'a dit que ma fille de 9 ans était en Syrie. Pour les autres, je ne sais même pas s'ils sont morts ou vivants. Je fais plein de cauchemars, je suis toujours terrifiée, j'ai peur qu'ils reviennent, je m'endors, ils sont dans ma tête, je me réveille, ils sont encore dans ma tête. Quoi que je fasse, Daesh accapare mon esprit.
Dans ce camp, qui a tout pour devenir une petite ville à moyen terme de 26 000 habitants, il y a une clinique. Elle propose un volet consacré à la santé mentale, souvent méprisé par les autorités, mal compris par la population. Une assistance pour les déplacés, mais aussi pour le personnel, lui aussi confronté à la violence du groupe État islamique. Amélie Courcault est la coordinatrice générale de la mission Irak pour Médecins du Monde.
La majorité de notre équipe, ce sont des médecins et des infirmiers, mais qui sont déplacés et qui vivent dans ce camp. Nous faisons aussi appel à une psychologue qui vient à peu près tous les 3 mois et qui vient uniquement pour échanger avec notre personnel et l'aider à faire face à toute cette écoute qui est parfois très très lourde au quotidien.
Dans cette région du nord de l'Irak, il y a 5 psychiatres, 2 psychothérapeutes certifiés pour une population de plus de 2 millions d'habitants.
Voilà, Irak, pensez les esprits des victimes de Daesh. Reportage difficile, hein, vous l'avez compris, mais formidable. Et reportage complet à écouter ce dimanche sur France Inter, dans l'émission Interception à 9h10. Reportage signé Vanessa Descoureaux.
On parle maintenant, Michael, de cybersécurité avec ce forum international qui se tenait la semaine dernière ici en France, à Lille.
Eh oui, 9e édition du FIC, le forum international de la cybersécurité. Plus de 5000 participants venus des 5 continents et un mélange des genres assez étonnant, hétérogène. Bonsoir Margot Duquesne.
Bonsoir.
Alors vous avez arpenté pour nous les allées de ce forum avec d'un côté des spécialistes de la cyberdéfense, souvent en uniforme, et de l'autre, des hackers.
Oui, et cette année, dans les conférences, on a entendu parler d'un phénomène qui se développe de plus en plus. Il s'agit des programmes de bug bounty. Alors, bounty pour dire prime, donc littéralement, le bug bounty, c'est la prime au bug. Alors, je vous explique. On a des plateformes qui font la passerelle entre les entreprises d'un côté, qui veulent renforcer la sécurité de leur site, et les hackers de l'autre, qu'on appelle ici des chercheurs ou même des chasseurs. Parce qu'ici, le chasseur est rémunéré uniquement à la prime, donc il trouve un bug, et plus le bug est gros, plus il est payé. Et sur un bug détecté, seul le premier à l'avoir trouvé est rémunéré.
Donc, autrement dit, ce sont les entreprises elles-mêmes qui demandent à se faire hacker, c'est ça?
Oui, mais ici, c'est pour la bonne cause. C'est pour renforcer la sécurité de leur site. En plus, c'est malin parce qu'il y a tout un système de gamification, de classement. Donc, ça rajoute un peu de challenge, de compétition. Et ça, c'est bon pour les hackers, mais c'est aussi très bon pour le business. Les États-Unis l'ont compris depuis bien longtemps. Le bug bounty a été créé en 1995 par l'entreprise américaine Netscape. Et depuis des années, les géants comme Facebook, Google ou Microsoft utilisent le bug bounty. Pour eux, la communauté de hackers est une mine d'or qu'il faut récompenser comme il se doit. Alors on a parlé de ça justement avec Yassir Kazar, cofondateur de Yogosha, une jeune plateforme française de bug bounty.
C'est vrai qu'il y a une image assez déformée des hackers, parce qu'on confond souvent hacker et cybercriminel, mais le hacker, fondamentalement, c'est une personne qui est là pour aider. Quand vous avez votre disque dur qui crache et que vous êtes à 4 heures du matin en train de poser des questions sur un forum, les gens qui vous répondent derrière, c'est des hackers. Donc ça fait des années que les entreprises travaillent avec des hackers. Récemment, la tendance s'est accélérée sur ces dernières années, parce que typiquement, il y a le Pentagone aux États-Unis qui a lancé un bug bounty.
Voilà, on l'a bien entendu, même le Pentagone s'y est mis. Justement, Margot, ça a donné quoi ce bug bounty au Pentagone?
Alors, ça a donné quand même une centaine de bugs détectés, dont certains ont été rémunérés 15 000 $. Devant ce succès, d'autres ont suivi. L'US Army, la défense américaine, a lancé son propre programme de bug bounty. Et là, les hackers ont détecté des failles qui permettaient d'accéder à des sites internes du ministère de la Défense. En tout, 100 000 $ ont été dépensés pour rémunérer ces hackers.
Alors ça, c'est le marché américain, mais au niveau européen, ça commence aussi à bouger.
Alors, c'est plus lent, mais la dynamique est en marche. Guillaume Vassaud-Houlière, qu'on a rencontré à Lille, est responsable de la nuit du hack depuis 15 ans. Il a cofondé la première plateforme européenne de bug bounty, la Bounty Factory. Et comme il le dit, l'Union européenne commence sérieusement à s'y pencher.
L'Europe a voté un budget de 3 millions pour le bug bounty de l'Europe. En fait, là, au mois de décembre, et on commence déjà à avoir des discussions autour de ça, comment on va mettre ça en place au niveau des infrastructures de l'Europe. Les mentalités ont évolué, et après, il y a la géopolitique. Sur des problématiques de cybersécurité, il faut savoir que c'est quand même nos défenses, quand même nos sociétés. En dehors de l'aspect sécurité en soi, de trouver des vulnérabilités, il y a aussi cet aspect, où est-ce que je vais les stocker? Quel système de paiement je vais utiliser? Qu'est-ce qui me garantit que je ne vais pas rémunérer quelqu'un qui est à un endroit ou qui travaille pour quelqu'un qu'il ne faut pas? On peut être très bon techniquement, mais après, tout ce qui est juridique, tout ça, faut faire quelque chose d'intelligent.
Donc la bataille pour le bug bounty se fera aussi sur le terrain juridique, parce que même si ces plateformes travaillent avec des hackers qui peuvent habiter en Inde ou en Patagonie ou n'importe où il y a une connexion Wi-Fi, les sociétés qui créent ces plateformes et celles qui les utilisent souhaitent conserver leur souveraineté et surtout, disent-elles, ne pas dépendre des lois d'un pays comme les États-Unis, régis, rappelons-le, par le Patriot Act.
Margot Duquesne, de retour du FIC, le forum international de la cybersécurité. Merci Margot.
Et pour finir, Michael, direction le Chili à la rencontre de boxeurs un peu particuliers, je crains le pire.
Vous allez comprendre pourquoi. On est ici à Curicó, dans la vallée centrale du Chili, au sud de Santiago, dans la salle d'entraînement du Boxing and Weed. Jusqu'ici, c'est à peu près normal. Boxing and Win, un club sportif qui a ouvert ses portes il y a 6 mois à peine, sous la houlette de Felipe Gorón, jeune médecin généraliste de 30 ans et boxeur amateur depuis l'âge de 19. Et le club ne désemplit pas, car la méthode d'entraînement est unique. On boxe sur fond, vous l'entendez, de Muddy Waters ou de Heavy Metal. Mais surtout, avant d'enfiler les gants, pendant les 20 premières minutes d'échauffement, on fait ça.
Eh, on respire,
oui. on fume un bon gros pétard du Mazar, une variété locale de cannabis ultra puissante. Fumer aide à surmonter la fatigue, explique Felipe, et c'est l'association parfaite, dit-il, entre un sport de contact et le calme nécessaire pour affronter un adversaire avec aisance et de bons réflexes. Bons réflexes, je suis pas sûr. Et Felipe, médecin, je le rappelle, veut aller plus loin. Il veut ouvrir d'autres clubs et surtout obtenir du gouvernement chilien la légalisation du cannabis et de la marijuana, dont seule la consommation à titre personnel est pour l'instant autorisée. Et de conclure, je cite, « Il n'y a rien de mieux que de se taper dessus comme des gentlemen et de partager un bon joint après. » Je vous laisse méditer.
Merci Michael Thébault, 18h50.
Ah, vous étiez invité?
Ah oui.
Un jour dans le monde.
C'est joli ici, j'aime beaucoup la décoration.
Alors on s'assied tranquillement et on apprécie le suspense.
Sur France Inter.
Cinéma, Eva Bétan, bonsoir. Vous nous parlez aujourd'hui de Moonlight en compétition pour les Oscars. Un film assez incroyable.
Oui, bonsoir. C'est probablement le concurrent le plus sérieux de La La Land pour les Oscars. J'ai envie de dire que d'un côté, il y a la joie, parce que La La Land, ça vous met en joie. Et de l'autre côté, il y a la beauté. Une sorte de beauté incroyable qui vient à un endroit où on ne devrait pas l'attendre. Un quartier noir, pauvre, un enfant, puis on le verra grandir, être adolescent, adulte, homosexuel. C'est dur d'être homosexuel dans ce quartier. Et c'est le contraire de ce qu'on attendrait. C'est pas pétaradant, c'est pas de l'action. Tout va passer par des petites choses, par des silences, par des sentiments, par une lumière magnifique. C'est un film absolument incroyable et il n'y a pas de discours dessus. Mais en même temps, il y a toujours l'arrière-fond qui nourrit les films et qui est toujours une chose passionnante. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est que la masculinité? Mais on va ajouter encore, qu'est-ce que c'est que la masculinité quand on est afro-américain et dans un quartier difficile? Tout ça est en arrière-fond. C'est pas une démonstration, le film c'est du beau cinéma, mais à l'arrière-fond, il y a aussi cela, Barry Jenkins.
L'histoire des Noirs américains a toujours été incroyablement difficile. Et les hommes noirs ont subi des pressions que personne d'autre n'a subies. Les Noirs en général ont subi des pressions que personne d'autre n'a endurées. L'histoire des Noirs en Amérique est une histoire de soumission. À cause de cela, une fois que vous avez gagné votre liberté, vous devez vous montrer extrêmement fort. Vous devez protéger les autres. Vous ne pouvez donc pas être vulnérable, être sensible. Il y a certains aspects de la masculinité auxquels il est impossible de toucher, parce que ce serait montrer de la faiblesse. Et la faiblesse est une forme de soumission. Donc je crois qu'il y a des aspects d'eux-mêmes que les hommes noirs doivent nier, dans leur communauté et plus largement dans la société. Donc le film est sur le parcours d'un garçon et sur la manière dont il est affecté par la société.
Il y a quelque chose de très doux dans votre film, même si ça parle de choses dures. Il y a une sorte de douceur, il y a des sentiments. Il n'y a quasiment pas d'action et il y a des sentiments. C'est rare de voir un homme aussi doux. Je ne vois pas d'autres mots.
Oui, je préfère voir le verre à moitié plein. C'est en partie parce que j'ai eu une enfance dure dans un quartier très dur. Et pourtant, je me retrouve ici. Alors le monde ne peut pas être complètement mauvais. Quand je fais des films, je les fais sérieusement, en parlant de sujets sérieux. Mais le monde est plein de beauté, et je ne veux pas effacer cette beauté de mon film, parce que je ne veux pas qu'elle soit effacée du monde.
Voilà, c'est bien quand il y a plusieurs films beaux à l'affiche. Il y a La La Land, il y a le film sur les frères Lumière, il y a Jackie, formidable film, et il y a Moonlight, Que demande le peuple.
Eva Bétan, merci, 18h53. Tina Riwen sur Inter, et puis Anthony Bélanger. Tina Riwen sur Inter, Anthony Bélanger adore.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Bonsoir Anthony.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Direction ce soir la Roumanie où des manifestations monstres, Anthony, se multiplient dans tout le pays.
Environ 300 000 Roumains ont bravé les températures polaires hier soir, dont la moitié à Bucarest, la capitale, pour manifester au cri de voleurs corrompus. Et ce, pour la seconde nuit consécutive, des manifestations qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Une autre est d'ailleurs convoquée pour cette nuit où l'on imagine qu'il y aura à nouveau des heurts avec la police, comme la nuit dernière où les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants. Alors qui sont les voleurs en question? Eh bien, pour comprendre, il faut revenir sur l'incroyable séquence qui a commencé dans la nuit de mardi. Dans la nuit de mardi, je dis bien la nuit. Sans prévenir ses collègues du gouvernement, ni aucune autre instance, surtout pas judiciaire, le ministre de la Justice, figurez-vous, a publié une ordonnance urgente, une ordonnance qui dépénalise les cas de mauvaise conduite officielle, ça c'est entre guillemets, c'est-à-dire de corruption des élus, pour des sommes inférieures à 200 000 lei, environ 45 000 euros. Par ailleurs, le texte gracie des centaines de politiciens aujourd'hui derrière les barreaux ou en instance de jugement.
Donc les politiques se gracient eux-mêmes.
C'était ça, c'est exactement ça. Et c'est d'autant plus choquant que le sujet est au cœur de toutes les luttes citoyennes en Roumanie depuis plus de 2 ans. C'est en protestant massivement contre cette corruption enquistée dans la politique roumaine que la rue a eu raison en novembre 2015 du gouvernement Ponta. Il se trouve que Victor Ponta était socialiste et que contre toute attente, un an après sa chute, les socialistes ont remporté les élections, c'était en décembre dernier. D'un côté, les Roumains de la rue ont renvoyé les socialistes, et de l'autre, ils les ont remis au pouvoir, mais par les urnes, c'est à n'y rien comprendre. Mais entre-temps, plus de Victor Ponta, c'est un nouveau dirigeant socialiste qui a émergé, il s'appelle Liviu Dragnea, lui-même condamné pour fraude électorale, et a donc empêché de profiter de sa victoire électorale, de tirer la queue du Mickey, si vous voulez, pour devenir effectivement Premier ministre. Cette ordonnance, vous l'avez compris, c'est donc aussi une manœuvre pour permettre à terme à Liviu Dragnea de récupérer ce qu'il estime être son bien, à savoir le poste de Premier ministre, tout en graciant ses copains et ses coquins.
Ça ressemble à un très mauvais film, Anthony.
Dont le scénario ne serait même pas très subtil et donc pas commenté par Eva Bétan, à cette nuance près que la Roumanie vient de porter sur les fonts baptismaux un nouveau concept politique, l'autoritarisme de gauche au pouvoir, avec le Slovaque Robert Fico tout de même. Et puisque, je le répète, ce sont des socialistes qui sont à la manœuvre, mais si surprenant de la part d'un parti, le PSD, qui est l'héritier direct des post-communistes qui, en renversant, souvenez-vous, c'était Nicolae Ceaușescu en 1989, avait déjà innové à l'époque en prenant le pouvoir au nom de ce qu'ils appelaient une démocratie inventive. Je vous le donne dans le mille, on le trouverait dans ce début de Trump dans le texte. Il faut aussi souligner, pour comprendre toujours, que ceux qui manifestent ne sont pas les mêmes que ceux qui ont reconduit au pouvoir le PSD. D'un côté, c'est la Roumanie des grandes villes du pays qui rugit de colère, et de l'autre, c'est la Roumanie des champs qui vote PSD.
J'imagine qu'ils ne sont pas seuls au monde, ces citadins.
Non, et heureusement, ils ont de leur côté un président de la République qui s'appelle Klaus Iohannis, de la minorité, issu de la minorité allemande, au pouvoir limité, mais qui fait jouer à plein son autorité morale et qui a porté l'affaire de cette ordonnance scélérate devant la Cour constitutionnelle du pays, puis aussi l'Europe qui veille de très très loin et qui tente de peser sur l'actuel gouvernement. En fait, l'opposition officielle, elle, par contre, est presque totalement inaudible. Elle a été assommée par les dernières élections. Elle est dispersée, décrédibilisée. La seule vraie opposition est donc dans la rue. Et c'est évidemment une situation très dangereuse. Les Roumains n'ont rien d'un peuple docile. Ils se sont battus et ont renversé plus coriace que des socialistes, même autoritaires ou populistes.
Anthony Bélanger, merci. Un mot du téléphone sonne à 19h20 sur la confiance ou la défiance à l'égard des médias, télé, presse, radio, internet, le quotidien La Croix, qui sonde depuis des années la relation entre les producteurs d'infos au sens large et leur public, vient de faire paraître le millésime 2017 où la confiance dans les médias s'effrite. Vos questions 01 45 24 7000.